Catulle Mendès, Madame de Fleurance. On a lu ce fait divers. On s'est étonné, on a dit, c'est extraordinaire. Maurice Laurent était un des meilleurs d'entre nous. Jeune, beau, élégant, l'âme franche et la parole ardente, d'une bravoure affirmée par 3 duels, d'une probité attestée par une vie très simple à laquelle suffisait la petite pension paternelle. Pourquoi, diantre, dans quel emportement de folie, a-t-il rompu du poing au Palais-Royal la vitrine de Fontana, et s'est-il jeté sur un bracelet de pierre fine, et l'a-t-il emporté en courant dans sa main crispée qu'il levait triomphalement avec l'air de montrer un trophée? Puis après l'étonnement, l'indifférence, l'oubli. La curiosité parisienne se détourne vite des mystères trop obscurs. Elle tient à comprendre tout de suite. C'est à peine si l'on sait que Maurice Laurin vient d'être condamné pour vol à 2 ans de prison. Pendant le procès, avant-hier, personne dans la salle, sinon 2 ou 3 avocats, quelques rédacteurs de journaux judiciaires et ces vagabonds de jour loqueteux, sordides, avec des barbes de plusieurs semaines, un foulard autour du cou, qui dorment sur les bancs de bois ou se tiennent debout, tout mouillés encore de pluie, les pieds sur la bouche du calorifère. Le procès n'était guère intéressant d'ailleurs. Le coupable n'a pas cherché à se disculper, n'a fourni aucune explication de sa conduite. C'est vrai, j'ai cassé la vitre, j'ai volé le bijou, n'ai pas d'autre chose à dire. Il y avait dans tout son air de la stupeur plutôt que de la honte. Sa parole brève, qui se dépêchait d'avouer, révélait un besoin d'en finir, de n'être plus là, de se trouver seul dans la cellule, où l'on pourra sangloter sans être entendu, où il sera possible, si l'on sait procurer quelques clous, de se pendre au mur avec la manche déchirée de sa veste de prisonnier. Et la vraie histoire de Maurice Laurin, abominablement invraisemblable, mais vraie, nul ne l'aurait jamais connue si Madame Florence ne me l'avait racontée. Oui, racontée tout entière en riant, car il lui fallait ce triomphe. Sans doute elle a pris soin de changer les noms, feignant de se rappeler une anecdote ancienne. Mais le moyen de ne pas deviner, dès les premières paroles, qu'il s'agissait de Maurice Laurin et d'elle-même. Vous la connaissez, cette redoutable mondaine, chercheuse de tout le nouveau, affamée de tout l'impossible. Ses audaces étonnent Madame de Rurmonde et Madame de Portalègre aussi. C'est elle qui, l'an dernier, à la fête de Saint-Cloud, a réalisé cette fantaisie éperdument absurde d'être la femme torpille et de donner à toucher aux militaires et aux calicots avinés ses bras nus d'où sortait une secousse et son mollet électrique. « Je suis la belle Irma dont on vous a parlé à l'extérieur. Approchez-vous, messieurs, n'ayez pas peur. » Et il y avait, à côté de la baraque, une autre baraque. Ce sont mes petits bénéfices. Elle se trouva plus d'une fois face à face avec des hommes qu'elle reçoit dans son salon à Paris. À ceux-là aussi, qui pour le seul prix de lui baiser la main auraient sacrifié leur fortune et leur vie, elle offrait le maillot de ses jambes et la chair de ses bras, criant dans un gros rire de faubourienne saoule. « Vous n'êtes pas les premiers qui me le disent, allez, que je ressemble à une grande dame. » Il ajoutait, imperturbable, comptant sur l'invraisemblance manifeste du seul soupçon, « Vous savez, il faudra me l'amener, cette coconnette. Ça me fera plaisir de la voir. Justement, j'ai cassé mon miroir, et puis on rigolera ensemble. » Adorablement exquise et délicate, d'ailleurs, Madame Fleurance, qui a failli être ambassadrice, et qui le sera, triomphe comme une reine incontestée dans le monde des luxes et des fêtes. Elle est pour tant d'autres femmes l'exemple. L'imiter, c'est une originalité. Lui ressembler, c'est une gloire. Même on l'estime. Folle peut-être, vertueuse certainement. Si l'on prenait garde à tout ce qu'on raconte, il faudrait croire à trop de choses. Son honnêteté douteuse est plus probable que l'excès de son ignominie. Elle se tire d'affaire par l'impossibilité d'être ce qu'elle est en effet. Elle échappe à la médisance en l'épouvantant. Et puis, elle est arrivée à un tel point de subtilité perverse et de monstrueuse ingéniosité qu'elle ne connaît plus une seule des imprudences banales où les naïves, les nouvelles, comme dans des pièges, se laissent prendre. Avoir pour amant des hommes de son monde, alors donc, mais pour quelle niaise la prenez-vous? Où sont les candeurs d'antan? S'il lui arrive parfois de s'abandonner à des complaisances pour des personnes qu'elle reverra, l'énormité même du crime, en ce cas, lui assure la discrétion de ses complices. Mais quoi? Tout cela est chimérique. Imagination, rêverie, pure calomnie, ces chuchotements. Et Madame de Fleurance, ce n'est pas sa faute si le roussissement furieux de sa chevelure et la profondeur noire de ses yeux qui affolent éveillent des souvenirs d'Adonisia effrénée. Madame de Fleurance est en somme une parfaite femme du monde, belle, noble, intelligente, idolâtrée, respectée, et de qui les équipages sont les plus beaux de Paris. Quand elle fut bien certaine que Maurice Lorrain l'aimait avec frénésie, était devenue incapable de lui rien refuser en échange d'une fleur où elle aurait mis sa bouche, elle lui dit dans une valse « J'ai vu chez Fontana un bracelet de perles fines. Il est sous la vitrine, tout à côté de la porte. Une grosse améthyste sert de fermoir. Il me plaît. Puisque vous m'aimez, donnez-le-moi. » Il fut étonné. Qu'avait-elle besoin d'un bijou de plus, elle qui avait tous les bijoux? Il songea aussi que le bracelet devait coûter quelques milliers de francs, qu'il obtiendrait aisément cette somme en écrivant à son père. Et il répondit, « Oui, ben, vous l'aurez. Je vous aimerai, mais je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je ne veux pas que vous achetiez le bracelet. Comment donc ferais-je pour l'avoir? Mais il y a un autre moyen. Lequel? Volez-le. » Après la valse, elle le conduisit, stupide, épouvanté, dans le boudoir voisin. Eh bien oui, je veux que vous le voliez. Vous m'aimez, vous me trouvez belle, vous me voulez. Soit, je consens, je me donne, mais à une condition. Je vous soumets à une épreuve. Soyez un voleur, vous serez mon amant. Vous entendez, un voleur. Vous entendez, mon amant. Prenez le bracelet, je me laisserai prendre. Ah, pourquoi je vous impose cette infamie? Oh, peut-être parce qu'il me plaît d'être aimé un jour, comme le sont les filles qui ont des bandits pour maîtres et pour serviteurs. Non, 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 pas pour cela. Je veux être sûr de votre amour, voilà. Et à vous, qui êtes irréprochable, à qui s'offre un long avenir de probité et d'estime, quelle plus grande preuve de tendresse pourrais-je demander que votre déshonneur? Car je veux que vous soyez arrêté, accusé, condamné, bien avili. C'est le prix que je mets à moi-même. Et si je réclamais de vous un acte honnête, noble, héroïque, où serait votre effort, je vous le demande? Toute votre petite fortune, vous la mettriez sur ma prière dans un tronc d'église ou dans une sébile d'aveugle. Je sais bien, oh, le beau mérite! Vous avez l'âme généreuse. Vous vous battriez, si j'en avais le caprice, avec les meilleurs tireurs de Paris. Je le crois bien, vous êtes brave. Non, de votre part, il ne peut y avoir d'autre sacrifice vraiment digne de ce nom, vraiment capable d'enorgueillir une femme et de lui prouver l'infini de votre dévouement, que le sacrifice de votre conscience paisible et de votre bourne renommée. J'exige une mauvaise action, celle-là ou une autre, mais celle-là plutôt parce qu'elle est bien vulgaire, bien plus vile, bien plus rabaissante. D'avoir fait de vous une espèce de pickpocket, quel sujet d'orgueil! Donc, en plein jour, ou sous le gaz bien clair, la vitre rompue, la main parmi les bijoux. Dites-moi le jour et l'heure, j'irai pour vous voir faire. Et si vous m'obéissez, je vous adorerai. Oh, toute la foule vous poursuivant, vous, parce que je l'aurais voulu, moi, avec des tumultes et des cris, au voleur, au voleur! Merci, je vous aime. Vous tâcherez de n'être pas pris tout de suite. Venez chez moi avant d'être traîné au poste. Je renverrai mon mari, je renverrai mes domestiques, je vous garderai dans mes bras, ébloui, extasié, jusqu'au moment où les sergents de ville qui vous auront suivi frapperont à la porte de l'hôtel. Oui, dans mes bras. N'est-ce pas qu'ils sont blancs et gras et qu'ils sentent bon et que cela ne serait rien d'avoir autour du cou un carcan après avoir eu ce collier? Maintenant, Maurice Lorrain, qui a été pris tout de suite et qui n'a pas su échapper à la poursuite des passants, est dans une cellule de Mazas, rongeant ses poings. Le pauvre lâche! Mais Madame de Florence a acheté à Fontana le bracelet volé, puis rendu. Et pendant qu'elle me contait, sans dire les vrais noms, cette histoire, elle regardait l'améthyste qui sert de fermoir en souriant.